J'aimerais parler sur le surnaturel de Dieu dans Daniel chapitre 2, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous t'en donnerons l'explication. Amen. » On va s'arrêter là pour l'instant pour la lecture. On fera d'autres lectures dans ce même chapitre, si vous voulez garder vos Bibles à cet endroit. Nous allons partager sur plusieurs éléments de ce chapitre 2. Quelquefois dans la vie, les choses ne se passent pas comme nous l'aurions espéré. Les événements peut-être s'aggravent, les portes se ferment. Notre réaction est souvent de dire « Mais Dieu, pourquoi as-tu permis ou pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Mais Daniel a une autre attitude quand tout va mal. Je rappelle un petit peu le contexte de ce chapitre 2. Nous savons que Daniel a été arraché alors qu'il n'était qu'un jeune homme pour être emmené captif à Babylone, un pays très éloigné d'Israël. Donc il est coupé de ses racines, coupé de sa famille, coupé de ses amis, de ses connaissances. Et puis on le contraint à être formé dans le palais du roi pour devenir un serviteur du roi Nebuchadnezzar. Donc on lui demande de manger des mets qui sont à la table du roi, qui pour lui, ce sont des mets impurs. Et là, il a pris une première position en ayant cette résolution de ne pas se souiller avec ces mets qui avaient été offerts à des idoles. Donc il a fait le choix d'obéir à Dieu, il a fait le choix de se soumettre à la volonté de Dieu, quitte à risquer d'avoir des difficultés avec ses supérieurs. Et il a bien fait, parce que la Bible nous montre qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et donc les hommes vous pousseront toujours dans des directions qui sont éloignées de ce que Dieu veut. Alors c'est à nous de prendre position. Et finalement, Dieu a retourné la chose, alors que ça aurait pu lui être défavorable. La Bible dit que Dieu a mis Daniel en faveur aux yeux du responsable qui s'occupait des serviteurs. Et Dieu a aussi donné de la sagesse et de l'intelligence bien plus à Daniel qu'aux autres qui étaient formés dans cet endroit pour devenir conseiller du roi. Et ici, nous voyons donc maintenant le chapitre 2. Daniel a été vraiment reconnu comme quelqu'un qui aimait Dieu, qui était sérieux, sur qui on pouvait compter. Et ici, Nebuchadnezzar, c'est le roi en place, le roi de ce pays de Babylone et de cette ville. Et Nebuchadnezzar, dans la nuit, est agité par un rêve qui le trouble. Il ne trouve plus le sommeil. Et le lendemain, il fait venir tous les sages et les astrologues et les devins du pays. Et il leur demande l'explication. Et là, on va lire le verset 5, Daniel 2, 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous me faites connaître le songe et son explication, si vous ne le faites pas, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Alors déjà, il y a différentes traductions sur la première partie. Quand nous voyons dans notre version « La chose m'a échappé », les versions les plus récentes ont mieux traduit « La chose est par moi prononcée » ou « Voici ce que j'ai décidé », ce qui n'est pas le même sens. Donc Nebuchadnezzar ne semble pas avoir oublié où la chose lui a échappé dans son rêve, mais au contraire, il met à l'épreuve les sages du pays pour voir s'ils sont capables de raconter le songe qu'il a eu et d'en donner l'interprétation. Donc, chose très difficile, comment voulez-vous savoir ce que le roi a rêvé ? Et puis, en donner l'explication. À partir du moment où on sait ce qu'il a rêvé, on peut donner l'explication, mais quand on ne sait rien, on part de zéro. Il n'y a aucun roi qui demande des choses pareilles. Ils disent au roi, mais comment peux-tu nous demander une chose pareille ? Donne-nous au moins le songe que tu as fait et nous en donnerons l'explication. Seuls les dieux qui n'habitent pas sur la terre peuvent savoir ce que les hommes rêvent. Alors ils confessent leurs limitations et leurs dieux ne feront rien pour eux. Le roi va rentrer dans une violente colère au point de vouloir faire mourir tous les sages du royaume. Et finalement, Daniel va être une victime de cette colère, puisqu'il se retrouve aussi associé aux sages dans sa formation. Et il va être décrété qu'ils vont être exécutés, mis à mort, parce qu'ils n'ont pas révélé le rêve. Donc Daniel qui est innocent, donc Daniel a Anania, Michaël, Azaria, Daniel et ses trois amis sont victimes d'une injustice, condamnés à être exécutés comme les autres. Ils subissent une situation qu'ils n'ont pas choisie et ça peut nous arriver d'être victimes, c'est-à-dire de subir une situation parce que d'autres ont fait des erreurs. Alors peut-être vous subissez une situation, vous ne l'avez pas choisi, vous payez pour les autres, c'est injuste, c'est une situation de souffrance, vous êtes innocent, mais personne ne vous entend. Qui pourra vous sortir de là ? Eh bien, Daniel va chercher en Dieu la solution à sa souffrance, à son désespoir, et c'est là que Daniel va demander un délai. Il va demander un délai aux responsables des serviteurs, et pendant ce délai, il va prier. Donc c'est le deuxième point, c'est la prière de la foi. Après, le premier point qui concerne le rêve mystérieux du roi, c'est la prière de la foi, c'est dans Daniel 2, versets 17 à 18, donc on avance un petit peu plus loin dans le chapitre. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc la situation était vraiment sans issue, il n'y avait pas d'espoir en réalité, leur mort était arrêtée, mais eux, même s'ils savent que personne ne peut changer la situation, ils croient en Dieu, ils s'attendent à Dieu, et ils savent que Dieu peut les sauver de cette mort prévue ou préméditée. Vous voyez, tout dépend dans quel état nous sommes. Peut-être si on était pessimiste, on aurait dit, ben voilà, c'est mon lot dans la vie, je suis victime, Dieu m'a oublié, et maintenant je vais payer pour les autres et je vais me retrouver mis à mort. Et puis être fataliste. Daniel n'est pas fataliste. Il a une autre attitude, c'est celle que nous devons avoir. Les épreuves arrivent, mais nous ne sommes pas fatalistes. Nous allons nous associer dans la foi et dans la prière pour faire monter vers Dieu nos requêtes en nous attendant à ce que sa main puissante intervienne au milieu de nous. Dans Matthieu 18, 19, c'est ce que Jésus dit. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc Jésus nous encourage à prier, nous encourage à nous associer en partageant les sujets, à prier les uns pour les autres, à prier avec foi, alors que les situations sont difficiles. Les deux principes que je vois dans ce passage, premièrement, c'est de s'accorder avec une autre personne, donc la communion fraternelle, de nous associer dans la foi, ça crée une émulation. Et puis, deuxièmement, d'y ajouter la foi qui va être un moyen de saisir la bénédiction, puisque tout, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc nous associons la foi et la prière Et la bénédiction n'arrive pas par hasard, il y a ces principes.
Donc, s'accorder avec les autres et prier dans la foi.
Ce sont des principes. Ce sont les mêmes principes, par exemple, que vous trouvez dans la nature. Ben, un agriculteur, il sait très bien qu'il ne va pas récolter du blé par hasard. C'est parce qu'il aura labouré la terre, parce qu'il aura semé, parce qu'il y a des principes qui précèdent la récolte. Eh bien, pour la prière, c'est la même chose. Nous avons des principes qui précèdent l'exaucement. C'est s'accorder et c'est la foi. Alors, Daniel se tourne vers Dieu et c'est Dieu qui peut ouvrir le ciel et étendre sa main. D'ailleurs, quand Jésus a pris son baptême, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Et c'est dans la prière que Dieu intervient. C'est pourquoi nous passons du temps dans la prière. Lorsque Pierre était en prison, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour lui. Et pendant qu'il priait, sans le savoir, Dieu a envoyé son ange qui a fait tomber les chaînes de Pierre et ouvert la porte de la prison. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu dans la prison, alors qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Les murs ont tremblé, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, et le geôlier qui allait se suicider a été sauvé d'une mort tragique, et en même temps, il a été sauvé puisqu'il a donné son cœur à Dieu. Tout cela, c'est le résultat de la prière. Prions pour nos familles, prions pour nos enfants, prions pour notre entourage, nos connaissances. C'est le Seigneur qui fera le miracle. La prière, c'est le premier pas vers le surnaturel de Dieu. Alors peut-être vous êtes découragé parce que vous avez déjà prié, puis Dieu n'a pas répondu. Et vous pensez, ça ne sert plus à rien de prier puisque Dieu n'a pas répondu. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit rien avec nos yeux qu'il ne se passe rien. Et il ne faut pas tomber dans le piège du découragement en se disant, Dieu n'a pas répondu, donc je ne prie plus. Non, on doit continuer à prier, continuer à s'attendre à Dieu, et lui, il décidera quand et comment faire. Donc notre part à nous, elle reste toujours la même, c'est de prier, de supplier, d'intercéder, de s'associer avec d'autres dans la foi. Ça, c'est la ferveur, ça, c'est notre désir. Notre souhait, c'est de nous associer dans la prière. Et c'est ce que vont faire Daniel et ses trois amis. Le texte dit que Daniel a réuni ses trois amis et les a engagés à prier, à chercher la face de Dieu et à s'attendre à avoir une révélation d'en haut. Un troisième point, c'est maintenant la révélation du secret que personne ne connaissait, à part le roi. Daniel 2,19, et ça c'est suite à la prière. Alors le temps de prière, nous ne savons pas combien de temps ils ont prié, mais le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Voilà le miracle. Notre part est donc de prier, de faire monter nos requêtes vers Dieu. La part de Dieu, c'est de faire le miracle, de donner des vision, de donner des songes, de donner des révélations. Joël 2,28 dit, après cela, c'est Dieu qui dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Eh bien, ce verset est pour nous encore aujourd'hui. Il s'est déjà accompli en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, où il y a eu ce déversement du Saint-Esprit sur les 120 qui étaient là. Et puis, c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Nous pouvons nous attendre aux prophéties, aux songes, aux visions, mais tout cela est précédé de la prière. Rappelez-vous que pendant 10 jours, les disciples, les 120, ont prié dans la chambre haute pour être remplis du Saint-Esprit. Ils s'attendaient à être remplis du Saint-Esprit. Donc la prière précède l'action de Dieu. Mais les visions, les songes, les prophéties, tout ça, c'est la part de Dieu qui agit. Dieu aime révéler ses secrets à ceux qui le cherchent, à nous de le chercher.
Certains peut-être vont dire, ben oui, mais moi, Dieu ne me parle pas, il ne me révèle rien. Mais c'est à nous de le chercher et le chercher de tout notre cœur. Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Mais la part de chercher, c'est à nous. « Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il y a donc une insistance, il y a une soif, il y a un désir qui doit être là en nous. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas abattre, parce que peut-être bien vous avez cherché puis vous n'avez pas trouvé. Même Jésus dit « frappez », continuez à frapper, littéralement, dans le sens original, c'est de frapper, de continuer à frapper, et l'on vous ouvrira. Cherchez, continuez à chercher, et vous trouverez. Donc, notre part, elle est bien de persévérer. Il y a un verset clé maintenant de ce chapitre 22, c'est le verset, plutôt le chapitre 2 de Daniel, c'est le verset 21. Daniel 2, 21, c'est ce verset qui explique comment Dieu agit. C'est lui, donc Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alors, là, il y a une révélation que Dieu, c'est lui qui peut changer les temps et les circonstances. Notez que ce sont deux choses que nous ne pouvons pas changer. On ne peut pas changer le temps. Le temps est pour nous, il s'égrène, il avance. On ne peut pas l'accélérer, on ne peut pas modifier. Mais Dieu, lui, il est hors du temps. Il peut agir de manière instantanée comme... beaucoup plus tard, parce qu'il l'a décidé ainsi. Et donc, nous, notre désir, notre but, c'est de nous caler sur le temps de Dieu. Mais on ne pourra pas changer le temps. Le temps est entre les mains de Dieu. Et puis, les circonstances, l'autre chose qu'on ne peut pas changer, eh bien, c'est les circonstances de la vie. Ça nous arrive, ce n'est pas les mêmes pour chacun. Mais néanmoins, ces circonstances-là nous échappent. Alors, les temps... Et les circonstances, la Bible dit que Dieu, lui, peut les changer. Moi, je ne peux pas accélérer le temps, je ne peux pas changer le temps qui passe, c'est un fait. Chaque année, eh bien, nous prenons une année de plus. Le temps nous pousse vers l'éternité, les circonstances de la vie nous tombent dessus, on ne sait pas pourquoi. Ça, on ne peut rien y faire. Mais la promesse, c'est que Dieu, lui, il peut intervenir au niveau du temps et au niveau des circonstances. Dans le prophète Joël, il y a même un verset qui dit « Dieu vous redonnera ce qu'ont dévoré les Hazal, le Gazim et les sauterelles. » En fait, ce sont des sortes de sauterelles. Et Dieu est capable de redonner ce qui est perdu. Et ça, c'est, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas changer, mais lui, il est capable de changer toutes choses. Alors, faisons-lui confiance. Il change les temps, les circonstances, il n'est pas dépendant du temps. Ne perdons pas de temps à vouloir changer les choses que nous ne pouvons pas changer, mais laissons notre cœur être transformé, façonné par la parole de Dieu. Notre part, ça reste bien la prière. Chercher Dieu, nous associer dans la foi. La part de Dieu, c'est d'intervenir de manière miraculeuse. C'est lui qui va établir les rois. C'est-à-dire, il va élever ce qu'il a désigné et il va donner la sagesse à ceux qu'il veut. Et un quatrième point, c'est que suite à cette révélation, Daniel est maintenant emmené devant le roi. C'est au verset 25 du chapitre 2. Arjok, donc c'était le responsable des serviteurs, conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » La solution se trouve parmi les captifs de Juda. Donc Dieu se plaît à faire sortir les bénédictions, les solutions des lieux les plus humbles ou les plus méprisés, puisque les captifs de Juda étaient comme des esclaves, ils étaient de seconde zone, ils étaient méprisés. Mais c'est par les captifs, un des captifs de Juda, que Dieu a parlé. Donc c'est pourquoi ne craignez pas si vous êtes méprisé, si vous êtes rejeté, si on vous a mis de côté, parce que Dieu aime utiliser ces circonstances pour amener des bénédictions, amener des solutions. Et il agit malgré le rejet, malgré les choses qu'on a fait sur votre vie, peut-être on vous a fait du mal. Eh bien, ne craignez rien, parce que Dieu peut utiliser ces choses-là pour bénir et pour vous amener plus loin. D'ailleurs, tous les sages et les puissants du royaume n'ont pas été utilisés par Dieu. Ils auraient pu. Il y en avait qui étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus avancés que Daniel dans bien des domaines, mais non. Dieu a choisi Daniel, son humble serviteur, captif parmi ceux de Juda. Alors, personne n'est capable de révéler les rêves si ce n'est Dieu. C'est au verset 28, Daniel 2, 28. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Ça, c'est Daniel qui parle. Et ce Dieu-là, c'est l'Éternel. Et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Voilà que Dieu est capable de révéler les secrets. Et ça, on a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Ici, il s'agissait donc d'un songe que Nebuchadnezzar a eu, mais qu'il n'a jamais voulu communiquer, mais Dieu l'a révélé à Daniel. Quand David a péché avec Bathsheba, eh bien Dieu a révélé la situation au prophète qui est venu chez lui, c'était le prophète Nathan, et qui a dévoilé son péché. Lorsque Ananias et Saphira ont menti sur le prix d'un champ, Dieu a révélé ce péché à Pierre, et Pierre a dévoilé le péché devant eux. Lorsque Simon, le magicien, avait dans son cœur des pensées mauvaises concernant le service de Dieu, puisqu'il voulait acheter à prix d'argent la possibilité de baptiser du Saint-Esprit, eh bien, les apôtres ont reçu par révélation, donc il y avait l'apôtre Pierre, et ils ont reçu par révélation l'état du cœur de cet homme qui n'était pas droit et qui a été démasqué. Donc tout cela, ce sont des révélations. Dieu révèle les secrets à ceux qui sont humbles, à ceux qui prient, à ceux qui sont en communion avec lui. Et dans la dernière partie, je voudrais qu'on lise quelques versets presque vers la fin du chapitre 2. C'est quoi ce rêve qu'a fait le roi? Alors, Daniel va le décrire au verset 31. Daniel chapitre 2, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme de la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Alors on va regarder ce rêve et surtout quelle en est l'explication. Et donc j'ai préparé un PowerPoint, si tu peux le passer pour vous expliquer. Donc vous allez voir la statue extraordinaire qui a été vu par le roi Nebuchadnezzar, ça commence avec sa tête. Tu peux cliquer sur la première image. La tête d'or. Voilà. La tête d'or, c'est ce qu'on voit en premier. Et ça représente la puissance, la force et la gloire de ce premier royaume. Alors tu peux cliquer encore une fois. Ce premier royaume, c'est donc Babylone. C'est le roi lui-même, Nebuchadnezzar, qui est représenté par cette tête d'or, donc la puissance de ce premier royaume. On avance encore, il y a la poitrine et les bras en argent. Ça, maintenant, on voit que les matériaux diminuent, c'est d'abord de l'or, Ensuite, l'argent, c'est inférieur. Et Daniel a la révélation que c'est un autre royaume qui viendra, donc après Babylone, mais qui sera moindre que celui du roi Nebuchadnezzar. Et ce royaume, c'est les Mèdes et les Perses. Donc c'est Cyrus, voilà. Cyrus qui va succéder à Nebuchadnezzar et qui va fonder le royaume des Mèdes et des Perses. Donc Daniel est en train de prophétiser sur les royaumes qui vont se succéder après celui de Nebuchadnezzar, qui est la tête d'or. Donc à l'époque de Nebuchadnezzar, lui, il n'y avait que son royaume qui existait. On continue, puisque Daniel continue avec un troisième royaume. Le matériau diminue, maintenant c'est de l'airain ou du bronze. Et Daniel reçoit la révélation que ce troisième royaume qui sera d'airain dominera sur toute la terre. Et là, ça fait référence à Alexandre le Grand et le royaume des Grecs qui se sont répandus après les Mèdes et les Perses. Donc, on arrive à un quatrième royaume après les trois premiers. Et là encore, ben, le matériau, la qualité du matériau diminue, c'est maintenant du fer, les jambes de fer. Il brisera et rompra tout comme le fer, il met tout en pièces, et ça représente l'Empire romain. Alors, on voit bien les royaumes qui vont se succéder, en commençant par Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Tout cela, Daniel est en train de le prophétiser à travers le rêve qu'a eu Nebuchadnezzar. Mais il y a un dernier royaume qui est mentionné, un cinquième, qui est le plus fragile encore, puisque c'est un mélange de fer et d'argile. Ce sont deux matériaux qui ne se mélange pas bien, qui ne sont pas solides ensemble. Pourquoi ? Parce que ce royaume sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de la force du fer, mais parce que tu as vu ce fer mêlé à l'argile, il aura aussi une faiblesse. Et ça, ça représente les alliances humaines. Et qu'est-ce que représente ce dernier royaume ? Eh bien, c'est l'Empire romain reconstitué. Et aujourd'hui, on sait que ça, c'est l'équivalent de l'Europe. Donc, dans cette Europe reconstituée, il y aura des alliances humaines qui seront faites, mais qui resteront fragiles. Les matériaux sont toujours plus faibles au fur et à mesure des royaumes qui passent. Ça, ça nous parle de la déliquescence des royaumes successifs, du cœur humain qui devient toujours plus mauvais. Et malgré leurs efforts de s'unir, eh bien, tous finiront par disparaître. Maintenant, le texte dit qu'il y a une petite pierre qui va surgir sans le secours d'aucune main et qui va venir frapper les pieds de la statue. Quelle est cette petite pierre ? Qu'est-ce que Daniel annonce par là ? Cette petite pierre, c'est Christ qui viendra détruire tous ces royaumes. Donc, les royaumes seront pulvérisés, c'est 1 Pierre chapitre 2 verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Alors cette pierre-là, c'est Christ, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Donc, cette petite pierre va être un rocher de scandale et va faire trébucher tous ceux qui ne croient pas. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc ces royaumes successifs bien s'éteindront. Déjà, ils ont tous disparu sauf le dernier qui est à venir, c'est cette reconstitution d'une nouvelle Europe, mais à la tête de laquelle il y aura l'Antichrist. Et Christ reviendra du ciel mettre un terme à son royaume. Et cette grande montagne, donc cette petite pierre qui va devenir une grande montagne qui remplit toute la terre, ça nous parle du royaume de Dieu qui sera sur la terre après la venue de Christ. C'est ce qu'on appelle le millénium, le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Voilà le rêve qu'a eu Nebuchadnezzar. En voilà l'explication que Daniel a donnée au roi pour montrer les choses de la fin des temps jusqu'au retour de Christ lui-même. Après les révélations de ce rêve et son interprétation, Daniel va être honoré et il va devenir chef suprême à la cour du roi parce qu'il était le seul qui avait eu la révélation 1 du rêve et 2 de l'interprétation. Donc Daniel était de la même nature que nous, il a simplement fait confiance à Dieu, il a prié, il a touché du doigt le surnaturel de Dieu et il a reçu les mystères cachés aux hommes, mais que Dieu lui a révélé, et il est devenu un témoin puissant en son temps. On va prier quelques instants, que Dieu nous permette aussi de toucher le surnaturel de Dieu, de recevoir ses songes, ses visions, ses révélations, ses interprétations, que Dieu touche nos cœurs pour nous permettre d'être des instruments de bénédiction entre ses mains. Merci encore pour l'exemple de Daniel, cet homme intègre qui a reçu ces révélations par le Saint-Esprit, mais parce qu'il a été persévérant dans la prière, parce qu'il n'a pas baissé les bras, parce qu'il n'était pas fataliste à un moment où il aurait pu tout abandonner et croire que toi, Dieu, tu l'avais abandonné. Mais Seigneur, il s'en est retourné dans la prière et dans la foi pour chercher ta face, pour implorer ton secours, pour implorer tes directives, ton attention pour que tu révèles, Seigneur, les choses cachées aux hommes, mais que toi, tu sondes les secrets des cœurs et toi seul peux les révéler. Merci, Seigneur, de nous conduire plus près de toi, de nous permettre de vivre, Seigneur, ces révélations d'en haut, ces songes, ces visions, ces prophéties, Seigneur, que tu promets dans le prophète Joël. Et nous savons qu'elles sont pour nous. C'est pourquoi nous prions dans la foi pour que tu les répandes au milieu de ton peuple. Oui, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.